Radio Libertaire 89.4, la voix sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et je vais commencer, oui, l'émission des partageux de la commune. Et puis là, bien plus particulièrement, une émission un peu spéciale autour donc de cette république, de cette troisième république, donc cette république du 4 septembre. Alors il y a à Paris, il y a le boulevard du 4 septembre, hein, c'est, oui, c'est boulevard, non, rue du 4 septembre, on oublie de dire 1870, hein. Alors bon, bah, pratiquement il y a toujours les mêmes dedans, hein, dans ces affaires de changement de pouvoir et non pas d'abolition de pouvoir. Adolphe Thiers et Louis-Napoléon Bonaparte sont dans un bateau. Ce bateau est baptisé République. Napoléon III a déclaré la guerre à la Prusse pour assurer sa dynastie, poussé par Thiers, qui n'a pas trouvé sa place chez les monarchistes, tant légitimistes qu'orléanistes, ni bien sûr chez les bonapartistes. Il ne reste plus à Thiers que les républicains opportunistes. Et il va le dire. Par ma naissance, j'appartiens au peuple. Par mon éducation, je suis de l'Empire. Par mes goûts, mes habitudes, mes relations, je suis de l'aristocratie. Et puis, il continue. La République est le gouvernement qui nous divise le moins. Et alors, comment, disons, réussir à passer au travers de tous les régimes et à se maintenir au pouvoir? Eh bien, voilà encore ce que déclare Thiers. La science de gouverner est toute dans l'art de dorer les pilules. Alors, Thiers va faire table rase du passé. Le 4 septembre 1870, il fait s'autodissoudre l'Assemblée nationale l'après-midi, puis le Sénat le lendemain. Il va refuser une place dans le gouvernement dit de la défense nationale, autoproclamé donc ce 4 septembre 1870, donc du balcon de l'Hôtel de Ville de Paris. Il va surfer sur les défaites de l'armée française. Il va installer son pouvoir le 18 mars 1871 à Versailles pour écraser Paris, qu'il qualifie de volcan des révolutions. Si Napoléon III a ouvert l'économie aux banques d'affaires, Thiers, lui, va les nourrir. Et voilà ce que Thiers va déclarer devant l'enquête parlementaire, donc après la Commune, le 21 août 1871. Vous ne ferez jamais d'opération financière si vous n'en finissez pas avec tous ces scélérats, si vous ne leur enlevez pas les canons. Il faut en finir et alors on pourra traiter d'affaires. Alors, Thiers est ce qu'on appelle un libéral à l'heure actuelle. Rien ne doit empêcher la production. L'ouvrier doit produire. Et on peut prendre ce qu'on prête à Voltaire, hein. Il est à propos que le peuple soit guidé et non pas instruit. Ou encore à Jean-Jacques Rousseau, le pauvre n'a pas besoin d'études. Ou encore, l'ouvrier n'a pas à connaître plus que son ouvrage. Et puis, eh bien ça, c'est à mettre aussi en lien avec ce que Jules Ferry déclarera pratiquement 15 ans plus tard, hein, 29 juillet 1885, donc dans un débat parlementaire devant les députés. Les races supérieures ont un droit sur les races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. C'est la justification donc de tout le colonialisme. Thiers va dénoncer le danger de la ville multitude. Ça, évidemment, c'est pour la métropole. Et pour encadrer cette ville multitude, eh bien, rien de mieux que les religieux. Et voilà ce qu'il déclare, Thiers. « Je veux rendre toute puissante l'influence du clergé, parce que je compte sur lui pour propager cette bonne philosophie qui apprend à l'homme qu'il est ici-bas pour souffrir, et non cette autre philosophie qui dit au contraire à l'homme « jouis ». Et ça, c'est devant la commission sur l'instruction primaire, le 15 mars 1850, pour soutenir donc les deux lois donc du comte de Falloux. C'est très curieux puisque on a l'impression que c'est dans la même veine que ce qu'on a entendu au Latran il n'y a pas si longtemps que ça. Actuellement, dans les mairies, Adolphe Thiers est présenté comme le premier président de la Troisième République, République autoproclamée donc le 4 septembre. Et pourtant, c'est bien ce Jules Trochu que Napoléon III avait nommé gouverneur de Paris sous le Second Empire, qui accepte ce dimanche 4 septembre la présidence de ce gouvernement de la défense nationale, à la condition, c'est Trochu qui le dit, que le nouveau gouvernement défende la famille, la propriété, la religion. Voilà le fondement donc de cette république du 4 septembre. 1848, Louis-Philippe règne depuis 18 ans en remplacement de Charles X, qui a été chassé par la révolution de 1830. Louis-Philippe est un orléaniste, donc considéré comme régicide par les légitimistes. Eh bien, ce Louis-Philippe a posé la première pierre de la colonne de Juillet sur la place de la Bastille, donc le 28 juillet 1835. Cette colonne, ben, c'est Thiers qui l'a fait voter. Et on voit dessus graver les noms des victimes de Charles X, de cette révolution donc de 1830. Thiers va aussi inaugurer tout seul l'Arc de Triomphe. Donc ça, c'est pour les bonapartistes. Le 29 juillet 1836, puisque Louis-Philippe craint un attentat contre sa personne. Et pour se rallier les bonapartistes et les républicains libéraux, Thiers va inaugurer la deuxième statue de Napoléon sur la colonne Vendôme. Colonne Vendôme, on verra ce qui s'est passé pour elle au moment donc de la Commune. Et voilà ce que déclare Thiers. Le 28 juillet 1833, anniversaire de la Révolution de Juillet, et le troisième du règne de Louis-Philippe, premier roi des Français, donc monarchie parlementaire. On peut prendre ce qu'écrit Proudhon. La bourgeoisie veut être gouvernée par un roi, mais le roi ne veut pas gouverner comme la bourgeoisie entend l'être. Et ça sera toute l'ambiguïté donc de ce pouvoir de Louis-Philippe, monarchie donc de Juillet. En 1874, il va être proposé de placer Thiers sur la colonne Vendôme, donc à la place de la statue donc de Napoléon Bonaparte, colonne Vendôme qui vient d'être établie sur ordre de MacMahon. Et voilà ce que l'on dit pour cette statue de Thiers sur la colonne Vendôme. Celui qui a représenté la bourgeoisie de son siècle, servi, aimé comme elle veut l'être, servilement, il ne laissera derrière lui ni une découverte, ni un livre, ni une grande pensée. C'est un castrat de la politique. Et alors voilà ce que nous nous présente à l'heure actuelle pratiquement dans toutes les mairies sur cette liste des présidents donc de la Troisième République, cette République du 4 septembre. Eh bien, le premier président de la République, c'est cet Adolphe Thiers. Eh bien, ce que l'on peut faire, c'est continuer avec les quatre barbus et on va écouter donc les pavés. Les pavés, donc c'est Eugène Philippe sur l'air de Faux de la Vertu, et donc c'est 1848. Voilà, 1848.
Ce sont des amis éprouvés qui ont tous vive les pavés. Ce sont des amis éprouvés qui ont tous vive les pavés.
Loin d'être dans les rétrogrades, les pavés sans distinction,
s'éprouvés par les barricades, étaient dans l'opposition.
Ce sont des amis éprouvés qui ont tous vive les pavés.
À leur fermeté rendons grâce, ce sont eux qui nous ont sauvés.
Tous contre une odieuse race, avec nous ils se sont levés.
Ce sont des amis éprouvés qui ont tous vive les pavés.
Leur éloquence est de nature à faire de l'impression.
Nos mouchards ont la tête dure, mais ils ont senti la raison.
Ce sont des amis éprouvés qui ont tous vive les pavés.
Chacun saisit sans interprète leur solide raisonnement.
On ne peut que baisser la tête devant de pareils arguments.
Ce sont des amis éprouvés qui ont tous vive les pavés.
Et pourtant l'oublieuse foule les traite avec indignité.
Et chaque jour au pied aux foules, ces sauveurs de la liberté.
Ce sont des amis éprouvés qui ont tous vive les pavés.
Et par eux au loin affermie, liberté tu ne laisseras
de refuge à la tyrannie, au lieu où l'on ne parle pas.
Ce sont des amis éprouvés qui ont tous vive les pavés.
Ce sont des amis amis éprouvés, crions tous vive les pavés.
Les damnés de la terre, les despotes épouvantés, sentant sous leurs pas un cratère, au passé se sont acculés. Leur ligue folle et meurtrière voudrait à l'horizon vermeil éteindre la lente lumière que verse le soleil. Debout, debout, les damnés de la terre, ceux qu'on écrase dans les charniers humains. Debout, debout, les forçats de misère, ils ont du latin, slave germain. Que la Troisième République se prostitue au sein tendeur qu'une foule extra-lunatique adore l'exterminateur. Puisqu'il faut que tout disparaisse, peu nous importe, c'est la fin. Par tous les peuples en détresse, s'éveille se donnant la main. Debout, debout, les damnés de la terre, ceux qu'on écrase dans les charniers humains. Debout, debout, les forçats de misère, ils sont nous latins, slaves germains. Les potentats veulent la guerre afin d'égorger leurs troupeaux pour fimenter chaque frontière comme on consacrait les tombeaux. Mais il vient le temps d'un archive où dans l'immense apaisement loup de France et de Sibérie nous imagineront de sang. Debout, debout, les damnés de la terre, ceux qu'on écrase dans les charniers humains. Debout, debout, les forçats de misère, ils ont nous latins, slaves germains.
Eh bien voilà, donc eh bien vous en avez eu deux, oui deux pour le prix d'une. Hein. Donc les pavés, donc bah c'était la révolution de 1848 et l'Internationale noire, évidemment c'est les paroles de Louise Michel et bien c'était après la Commune, donc les mouvements communalistes de 1871. Eh bien on va arriver donc à 1848, mardi 22 février 1848. Et oui c'est le début de bon. Ce qui va arriver, la Deuxième République. Hein. On apprend que le banquier républicain de Paris est interdit, parce qu'il était interdit de faire des réunions politiques, mais il n'était pas interdit donc de se réunir pour manger et de parler en mangeant. Donc on a fait des banquiers républicains. Mais voilà, à l'époque, il est interdit. Première manifestation autour donc de l'église de la Madeleine. Et puis là, on crie « Ah bah Guizot !» Et oui, c'est lui qui avait interdit. L'après-midi, les manifestants pillent des armureries. Le gouvernement décide d'appliquer le plan Gérard. Et oui, c'est tout un système de répression qui se met en place. Des barricades s'élèvent, mais sont aussitôt balayées par la troupe. Et c'est Proudhon qui va composer l'affiche. Citoyen, Louis-Philippe vous fait fusiller comme Charles X, qu'il aille rejoindre Charles X. Jeudi 24 février, Bugeaud et son aide de camp, Jules Trochu, tiennent un conseil de guerre à 1h30 du matin aux Tuileries. À 2h30, Thiers, lui, impose son gouvernement à Louis-Philippe. Bataille dans Paris. Thiers va conseiller à Louis-Philippe de se retirer au château de Saint-Cloud, puis d'envoyer 60 000 soldats sur Paris. Et voilà ce qu'il lui dit. L'hôtel de ville sera peut-être en ruine, et nous aurons les pieds dans le sang, mais vous aurez sauvé la monarchie. Et oui, c'est ce que Thiers va faire le 18 mars 1871. Il va se retirer non pas à Saint-Cloud, mais à Versailles. Louis-Philippe refuse. Et voilà ce qu'il dit. Quand on a quitté Paris, on n'y rentre pas. À 10 heures, Louis-Philippe et ses deux fils, deux de ses quatre fils, donc le duc de Nemours et le duc de Montpensier, passent en revue la 41e Légion, qui crie « Vive la Réforme !» Et oui, la Réforme, donc c'est ceux qui proposent la Deuxième République. Louis-Philippe s'enfuit, va se réfugier aux Tuileries. Le soir, Lamartine propose un gouvernement provisoire à l'hôtel de ville. Et Lamartine écrit « Le gouvernement provisoire déclare que le gouvernement provisoire de la France est le gouvernement républicain et que la nation sera immédiatement appelée à ratifier la résolution du gouvernement provisoire et du peuple de Paris ». Thiers se rallie aussitôt au gouvernement provisoire. Il écrit à un ami qu'il soutiendra une république tempérée si elle combat le communisme ouvrier, lequel rendra, si on ne le contient pas, toute industrie, tout commerce impossible et ruinera le pays. Puis Thiers va s'éclipser. Il ne ressortira qu'après les massacres de juin. Le trône pris aux Tuileries est brûlé symboliquement sur la place de la Bastille. Louis-Napoléon est élu député de la Moselle comme défenseur des ouvriers. Évidemment, pour faire cesser une révolution, le mieux, c'est de donner, d'ouvrir les bulletins de vote et de dire, bien, c'est ce qui s'est passé en 48, soyez raisonnables, on échange vos fusils contre nos bulletins de vote, vous allez voter, et puis ça ira beaucoup mieux que de tirer des coups de fusil. Le problème, c'est qu'en juin, les révolutionnaires avaient mis leur bulletin de vote dans les urnes. Ils ont élu des personnes qui vont les massacrer, mais ils n'auront plus de fusils, puisque ni bulletin de vote, bien sûr. Vendredi 25 février, la foule arrive à l'hôtel de ville avec des drapeaux rouges. Lamartine impose le drapeau tricolore, et voilà ce qu'il dit. Le drapeau rouge que vous nous rapportez n'a jamais fait que le tour du champ de Mars, traîné dans le sang du peuple en 91 et 93. 1700, bien sûr. Et le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie. Et Lamartine fait adopter le drapeau bleu, rouge, blanc de la République de 1792 pour être en rupture avec le bleu, blanc, rouge, profané, d'après lui, par Louis-Philippe. Mais le blanc est la couleur des légitimistes, le bleu et le rouge est la couleur des orléanistes. Le 7 mars, il redeviendra bleu, blanc, rouge. C'est celui que l'on a à l'heure actuelle. On peut prendre ce qu'écrit Gustave le Français, qu'on retrouvera au moment de la Commune. La France s'est reconquise. On va enfin constituer une société de justice dont tous les membres seront libres et égaux. Le travail sera délivré de l'arrogante et effroyable exploitation des manieurs d'argent. Puis, qui sait, la contagion aidant, si bientôt l'Europe entière ne va pas se transformer en une fédération de peuples libres. Il y a un décret qui est pris. Le gouvernement provisoire de la République française s'engage à garantir l'existence de l'ouvrier par le travail. Il s'engage à garantir le travail à tous les ouvriers. Et alors, voilà ce que répond Proudhon. Quel est ton nom, révolution de 1848, donc évidemment en février. Je m'appelle droit au travail. Samedi 26 février, proclamation officielle de la République. C'est la deuxième et c'est la création des ateliers nationaux. 23 avril, toujours 1848, élection à l'Assemblée constituante. Succès des Républicains convertis, pratiquement pas de révolutionnaires. Candidature de Jeanne de Rouen, qui est soutenue par Cabet. Eh, Cabet, c'est le fondateur du communisme. Hein. Proudhon n'est pas élu. Lamartine, lui, est élu dans 10 départements. Il arrive en tête à Paris, avec 259 800 voix. Victor Hugo, 59 046 voix, il n'est pas élu. Le 34e et dernier élu est Lamennais, avec 104 871 voix. Thiers est battu par Berryer, qui est soutenu par Émile Ollivier, dans les Bouches-du-Rhône. Thiers va se réfugier à Franconville, chez la marquise de Massa, où il écrit sa brochure « De la propriété ». C'est en écho, donc, avec ce qu'a écrit Proudhon. Madame Donne manœuvre à Paris, son épouse, pour lui obtenir des soutiens aux élections complémentaires. Le 7 mai, les 860 élus de la nouvelle Assemblée sont sur les marches du Palais Bourbon. 17 fois, les députés qui viennent d'être élus crient « Vive la République !» et 17 fois, en face, sur la place de la Concorde, il y a la Seine qui sépare, le peuple répond « Vive la République sociale !» En juin, la bourgeoisie charge Thiers d'écraser l'élément révolutionnaire du prolétariat qui l'a aidé à renverser la monarchie, 4 mois plus tôt. Le 2 juin, abrogation de la loi d'exil de Louis Bonaparte. Eh oui, celui qui va devenir prince-président, et puis après Napoléon III, et qui va déclarer la guerre à la Prusse. Le 4 juin, donc, ce sont les élections législatives complémentaires. Échec des républicains. Louis-Napoléon, qui peut se présenter puisqu'il n'est plus en exil, est élu à Paris. Pierre Leroux et Proudhon sont élus. Il y a une manifestation pour brûler l'hôtel d'Adolphe Thiers, place Saint-Georges. 50 gardes nationaux sont requis à la mairie du 2e arrondissement et qui vont donc dégager la place. Le 6 juin 1848, Sénart, qui a réprimé l'insurrection de Rouen, est élu président de l'Assemblée, en remplacement de Buchez, à qui on reproche d'avoir manqué d'autorité, notamment lors de la manifestation du 15 mai 1848. Et Sénart va gagner le surnom de Bourreau. 23-26 juin, journée de juin. Insurrection ouvrière à Paris après les dissolutions des ateliers nationaux. 25 juin, suite de la répression. Seul résiste le faubourg Saint-Antoine. L'archevêque Affre tente de s'interposer. Il va être tué d'une balle dans le dos. 26 juin, l'entrée du faubourg Saint-Antoine est forcée. Les exécutions sommaires continuent jusqu'au 28 juin. L'armée déplore la perte de 703 soldats. On compte 3035 cadavres d'insurgés, en dehors de ceux qui furent jetés à la Seine. 1500 prisonniers vont être fusillés sans jugement, après donc le 27 juin. L'histoire retient 5600 morts, 11047 ouvriers vont être jugés, et plus de 4000 vont être déportés sans jugement. Les clubs sont fermés, l'état de siège est proclamé, et Louis-Philippe en exil, apprenant la répression, déclare « La République a de la chance, elle peut tirer sur le peuple. » 31 juillet, discours de Proudhon à l'Assemblée. Et oui, il est élu député, et là il va y gagner le surnom d'homme terreur. Alors premièrement, dénonciation à la propriété, à la classe bourgeoise. Deuxièmement, mise en demeure adressée à la propriété de procéder à la liquidation sociale. 13 septembre, Adolphe Thiers, aussi élu député, déclare devant les députés « Jamais vous n'avez eu autant besoin d'entendre la vérité. » Et il dénonce ceux qui laissent croire au peuple qu'après une révolution, on peut récupérer des biens que détiennent les méchants spéculateurs. 21 septembre, 56e anniversaire de la proclamation de la Première République. Et Louis-Napoléon Bonaparte, député, déclare « Toute ma vie sera consacrée à l'affermissement de la République. » 17 octobre, banquet de la République démocratique et sociale, avec des toasts de Cabet, de Pierre Leroux, de Pierre-Joseph Proudhon. Toast à la Révolution de Pierre-Joseph Proudhon, voilà ce qu'il dit. « La Révolution, après avoir été tour à tour religieuse, philosophique, politique, est devenue économique. » La révolution de février a posé le droit au travail, c'est-à-dire la prépondérance du travail, sur le capital. Mais nous sommes en 1848, puisque Napoléon III va donc installer les banques d'affaires et Adolphe Thiers va faire en sorte de nourrir ces banques d'affaires avec le travail des ouvriers. 3 décembre, banquet des travailleurs socialistes à la Barrière du Maine, placé sous la présidence d'Auguste Blanqui. Il va être emprisonné à Vincennes. 10 décembre, Louis-Napoléon Bonaparte remporte la première élection présidentielle au suffrage dit universel. Eh oui, les femmes ne votent pas. Avec plus de 5 400 000 voix. Le candidat de l'extrême gauche, François-Vincent Raspail, n'obtient que 37 000 suffrages. Jeudi 20 décembre 1848, l'Assemblée constituante, entourée d'un imposant déploiement de troupes, proclame les résultats. Le prince Louis-Napoléon est élu président de la République. Président constitutionnel jusqu'au 2 décembre 1851, mais c'est trop petit pour lui, bien sûr. Prince président du 2 décembre 1851 au 2 décembre 1852 et empereur du 2 décembre, donc 1852, au 4 septembre 1870. Alors évidemment, 2 décembre, bah oui, c'est l'anniversaire d'Austerlitz. Hein. C'est un vote populiste de revanche après la répression de juin. Les républicains sont éliminés des ministères. Les coups d'État des 2 décembre, les deux, 1851 et 52, donc vont être faits avec le soutien de la Banque de France. Et alors, c'est bah oui, c'est la fin donc de la Deuxième République. 15 mars 1850, on a cette loi du comte de Falloux. Les congrégations sont favorisées, liberté des collèges secondaires, la loi distingue financièrement 2 écoles, l'école publique et l'école libre. Mais elles sont contrôlées par les maires et les curés. Cette loi refond la loi de 1833, donc sous Louis-Philippe, étant plus confessionnelle. Les communes ne sont plus tenues d'ouvrir une école publique s'il existe une école confessionnelle. Et alors, cette loi Falloux, donc sur la liberté de l'enseignement, instaure aussi le Conseil supérieur de l'instruction publique. Les collèges royaux redeviennent des lycées. L'université est placée sous le contrôle de l'État et de l'Église via les préfets et les évêques. L'Église reçoit toute latitude pour créer des universités libres. 257 écoles libres s'ouvrent en France. Pratiquement en mars 1850. Et alors, on a ce discours d'Adolphe Thiers devant la commission sur l'instruction primaire. Donc Adolphe Thiers qui veut absolument faire passer cette loi Falloux. Et voilà un passage. N'est-ce pas les ouvriers les plus instruits et qui gagnent le plus, qui sont tout à la fois les plus déréglés et les plus dangereux pour la paix publique ? Assurément. Je ne veux pas pour cela faire de l'obscurantisme. Il ne faut pas, sans doute, couper l'arbre de la science du bien et du mal. Mais je dis qu'il faut bien regarder avant d'étendre démesurément partout l'instruction primaire, et surtout avant de lui donner une extension plus grande qui n'est pas sans grave danger. Lire, écrire, compter, voilà ce qu'il faut apprendre. Quant au reste, il est superflu. Je demande formellement autre chose que ces instituteurs laïcs, dont un grand nombre sont détestables. Je veux des frères, bien qu'autrefois j'ai pu être en défiance contre eux. Je veux encore, là, rendre toute puissante l'influence du clergé. Je demande que l'action du curé soit forte, beaucoup plus forte qu'elle ne l'est, parce que je compte beaucoup sur lui pour propager cette bonne philosophie qui apprend à l'homme qu'il est ici-bas pour souffrir, et non pas cette autre philosophie qui dit au contraire à l'homme « jouis ». Je dis et je soutiens que l'enseignement primaire ne doit pas être forcément et nécessairement à la portée de tous. J'irais même jusqu'à dire que l'instruction est suivant, moi, un commencement d'aisance et que l'aisance n'est pas réservée à tous. Alors, Thiers était hostile au monopole donc de l'Église au moment de la Restauration, à la liberté de l'enseignement sur la monarchie de Juillet. Il soutient Montalembert en 1850 sur cette liberté. On peut prendre ce que déclare Crémieux. Alors, c'est Isaac Moïse, dit Adolphe Crémieux. Donc, voilà ce qu'il dit. L'éducation religieuse doit être donnée au temple et non à l'école. Le prêtre à l'Église, l'instituteur à l'école. Alors, le catholique ne dominera pas le protestant, pas le juif. Alors, l'enseignement sera libre. Et alors, on a cette instruction au prêtre de l'évêché de Langres, qui est signé évêque Parisis. La loi du 15 mars 1850, donc cette loi Falloux que défendait Adolphe Thiers, non seulement fait faire un premier pas à cette liberté de l'enseignement que nous réclamions avec tant d'insistance, mais elle fait entrer le prêtre à tous les degrés dans la direction et la surveillance de l'enseignement officiel. Et alors effectivement, on peut prendre par exemple cet article 17, école libre, les écoles primaires ou secondaires fondées et entretenues par des particuliers ou des associations. Alors on en voit là donc cette inversion qui est faite. Eh bien on va écouter Le bon Dieu dans la merde, Le bon Dieu dans la merde, et c'est toujours chanté par les quatre barbus. Voilà, ça devrait y aller.
Néon 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchêne.
Néon 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchêne. Marat fut généreux, nom de Dieu, à qui lui porte la haine sans Dieu.
Je veux parler sans gêne, nom de Dieu.
Je veux parler sans gêne.
Coquin filou peureux, nom de Dieu, vous m'appelez canaille.
Coquin filou peureux, nom de Dieu, vous m'appelez canaille.
Dès que j'ouvre les yeux, nom de Dieu, jusqu'au soir je travaille sans Dieu. Et je couche sur la paille, nom de Dieu.
Et je couche sur la paille.
On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense.
On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense. Tandis que ces messieurs, nom de Dieu, s'arrondissent la panse sans Dieu. Nous crevons d'abstinence, nom de Dieu. Nous crevons d'abstinence.
Pour mériter les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces bougresses.
Pour mériter les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces bougresses.
Au vicaire le moins vieux, nom de Dieu, s'en aller à confesse sans Dieu. Se faire blotter les fesses, nom de Dieu. Se faire blotter les fesses.
Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire.
Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Coupe les curés en deux, nom de Dieu, fous les églises par terre sans Dieu. Et le bon Dieu dans la merde, nom de Dieu. Et le bon Dieu dans la merde.
Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves.
Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Ne sois pas généreux, nom de Dieu, patron bourgeois et prêtre sans Dieu.
Mérite la lanterne, nom de Dieu. Mérite la lanterne. Mérite la lanterne. Et alors, on va arriver à cette série de coups d'État, donc 2 décembre, hein, donc anniversaire donc d'Austerlitz. 1er décembre 1851, Louis-Napoléon déclare « Le propre de la démocratie est de s'incarner dans un homme ». C'est assez curieux parce que on a l'impression de revivre cela. Grand bal aux Tuileries. La Banque de France va financer ce coup d'État, donc monté par Louis-Napoléon, Magnan, Maupas, Morny. Alors peut-être quelques mots sur Morny. Morny, c'est le demi-frère de Louis-Napoléon. C'est le fils de Charles, comte de Flahaut de la Billarderie et de la reine Hortense, née Beauharnais. Le grand-père, Alexandre de Flahaut, a été guillotiné à Arras en 1764. Il avait épousé Adélaïde et sa riche dot, fille naturelle de Julie Filleule, maîtresse du roi, et de Michel Bourret, richissime fermier général. Julie Filleule était une fille naturelle de Louis XV et d'Irène du Buisson de Lompré, qui épousera Charles-François Filleule, secrétaire du roi. Donc on voit, pour Morny, c'est quand même pas inintéressant. 2 décembre 1851, donc c'est l'anniversaire de la victoire, moi je dirais de la bataille d'Austerlitz, donc remportée par Napoléon Bonaparte. Donc c'est le coup d'État de Louis-Napoléon. Seuls les ouvriers engagés vont s'y opposer. Sur 158 morts, 101 sont des ouvriers. Le 2 décembre, donc c'est la 2 décembre 1852, l'année d'après, c'est la proclamation du Second Empire. Napoléon III met en application sa doctrine sociale, espérant détourner les ouvriers de l'influence républicaine. Et puis on avance sous le Second Empire. 9 juin 1857, loi portant prorogation du privilège de la Banque de France jusqu'en 1897. Et oui, c'est le remerciement. Haussmann, nommé sénateur, donc va conduire les travaux, ce qui permettra à Jules Ferry d'écrire en 1868 les contes, alors C-O-M-P-T-E-S, fantastiques d'Haussmann, les contes fantastiques d'Haussmann. 8 janvier 1864, le comité des fortifications, donc qui a été imposé par Adolphe Thiers, hein, aux alentours de 1840, pour enfermer ce volcan des révolutions qu'est Paris, donc est obligé d'admettre que l'enceinte, construite selon la stratégie de Vauban, est périmée du fait de l'utilisation de l'artillerie rayée.
C'est Thiers qui avait imposé ses fortifications. Trois jours plus tard, discours de Thiers au corps législatif sur les cinq libertés nécessaires. Liberté individuelle, liberté de la presse, liberté de l'électeur, liberté de l'élu, liberté du parlementaire. Faut rappeler que Adolphe Thiers est régisseur du conseil d'administration des mines d'Anzin et touche 200 000 francs par mois de dividendes. Il faut 24 ans à un mineur de fonds pour gagner cette somme. En 1867, Gustave Flaubert va écrire à Georges Sand, la bonne dame de Nohant. Rugissons contre Monsieur Thiers. Peut-on voir un plus triomphant imbécile, un croutard plus abject, un étroniforme bourgeois? Non, rien ne peut donner l'idée du vomissement que m'inspire ce vieux melon diplomatique arrondissant sa bêtise sur le fumier de la bourgeoisie. Gustave Flaubert. En mars, Napoléon III rompt avec le Vatican en interdisant le syllabus du pape Pie IX, qui condamnait donc le panthéisme, le naturalisme, l'indifférentisme, et puis surtout toute émancipation du pouvoir religieux. En 1866, on chante le temps des cerises de Jean-Baptiste Clément, et puis aussi « Quand viendra-t-elle » d'Eugène Potier. Eh oui, va falloir attendre encore 5 ans pour avoir la commune. 13 novembre 1868, Charles de Lécluse est emprisonné pour avoir lancé une souscription pour un monument au député Baudin qui était enterré anonymement au cimetière Montmartre. Donc Baudin, c'est un opposant à Napoléon III qui a été tué rue du Faubourg-Saint-Antoine le 3 décembre 1851. Et puis, on revient donc à novembre 1868, le 14 novembre, plaidoirie de Gambetta. Et oui, il arrive le Gambetta qui défend de l'Écluse, ou plutôt qui attaque l'Empire. De Lécluse va prendre 6 mois de prison. Et Gambetta va écrire, un petit peu plus tard, le 14 novembre 1878, il écrit ça à Léonie Léon, et oui, c'est Léon Gambetta qui écrit à Léonie Léon, ça fait beaucoup de Léon. Il y a 10 ans, à pareille heure, je suis entré avec effraction sur la scène du monde, tout me manquait alors. Donc on se rend compte que Gambetta s'est servi donc du strapontin entre guillemets du procès de Lécluse pour arriver sur la scène politique. 16 juin 1869, 13 morts à la Ricamari, dont 2 femmes tuées par la troupe. Le conseil municipal de Saint-Étienne démissionne. Une souscription est lancée. Donc pour aider les familles, elle sera relayée même par les journaux réactionnaires à Paris. 8 octobre 1869, 14 morts et 20 blessés à Aubin, c'est dans l'Aveyron. Le 15 novembre, peine de prison pour les grévistes. Et le maréchal Leboeuf, qui est ministre de la guerre, décore l'officier qui a lancé l'ordre d'ouvrir le feu sur les grévistes. Jante à une réunion en novembre, toujours 1869. L'armée est un foyer de paresse où des hommes jeunes et forts apprennent uniquement l'art de tuer et de tuer même des citoyens français, comme à la Ricamari, comme à Aubin. Et puis on arrive à 1870. 2 janvier 1870, Napoléon III tente une ultime manœuvre libérale, constitution du ministère Émile Ollivier, qui déclare « Il s'agit de prendre la révolution à bras-le-corps ». Et c'est la constitution donc du tiers-parti. Le 10 janvier 1870, assassinat de Victor Noir, André Salmon de son vrai nom, par le prince Pierre Bonaparte, qui est un frère de Napoléon III. Le 11 janvier, le journal La Marseillaise, quotidien fondé par Rochefort, donc quelques mois auparavant, puisque le premier numéro c'était le 19 décembre 1869, est saisi. Et voilà ce que déclare Flourens pour l'enterrement. « Demain, il faudra vaincre ou mourir. » 1848 a commencé par un cadavre. Nous avons celui de Victor Noir. Le journal La Réforme, tiens, 1848, La Réforme, la conscience de l'humanité, étouffée depuis 18 ans, crie vengeance. 12 janvier, c'est l'enterrement de Victor Noir qui se transforme en manifestation contre l'Empire. Les blanquistes, commandés par Flourens, sont pour l'affrontement. Rochefort est contre. Et il fera dévier le cortège funèbre vers le cimetière de Neuilly. Rochefort sera quand même arrêté le 8 février pour sa participation donc à l'enterrement. 19 avril, au banquet de la jeunesse, Gambetta déclare « Je tiens à l'ordre et à la stabilité ». Il y a aussi ce manifeste des républicains non socialistes rédigé par Gambetta et Jules Ferry, appelant à voter non au référendum, dit Senatus Consulte. Le 2 mai, Poncet déclare « Le bulletin de vote est une arme plus puissante que le chasse-pot. C'est par lui que nous devons renverser des institutions mauvaises. » Et ça rejoint donc une phrase d'Auguste Blanqui, « Votre bulletin de vote, c'est votre fusil. » Mais nous sommes en 1870. En 1880, Auguste Blanqui aura changé donc totalement d'avis. Le 8 mai, dimanche, jour du plébiscite. Donc, pour la France, 7 300 000 oui. 1 579 939 non. Il y a 1 894 681 abstentions. À Paris, c'est le contraire. Napoléon III va déclarer à son fils, qui est âgé de 14 ans, « Mon fils, tu es sacré par ce plébiscite. » Et devant le corps législatif, donc devant les députés, nous pouvons maintenant envisager l'avenir sans crainte. Nous sommes le 8 mai 1870. Et alors, de l'autre côté du Rhin, là, voilà ce que déclare Otto de Bismarck. « Ce n'est pas par des discours et des votes de majorité que les grandes questions de notre époque seront résolues, mais par le fer et par le sang. » 6 juillet, Adolphe Thiers, devant les députés, « On vient de jeter un gant à la face de quelqu'un qu'on veut forcer à se battre. » Et alors Bismarck veut faire déclarer la guerre par la France en laissant s'installer un roi prussien à Madrid, et oui, par le jeu des mariages. Le 8 juillet, c'est la fin du troisième procès de l'International, qui est une suite logique du procès de Blois. Le 12 juillet 1870, déclaration des sections parisiennes de l'Association internationale des travailleurs. Ne pas confondre avec la sensibilité marxiste. La guerre, c'est le réveil des instincts sauvages et des haines nationales. La guerre, c'est le moyen détourné des gouvernements pour étouffer les libertés publiques. Une guerre pour une question de prépondérance ou de dynastie ne peut être aux yeux des ouvriers qu'une absurdité criminelle. Nous qui voulons la paix, le travail et la liberté, nous protestons contre la destruction systématisée de la race humaine, contre la dilapidation de l'or du peuple qui ne doit servir qu'à féconder le sol et l'industrie, contre le sang répandu pour la satisfaction odieuse de vanité, d'amour propre, d'ambition monarchique, froissée ou inassouvie. Nos divisions n'amèneraient des deux côtés du Rhin que le triomphe du despotisme. Évidemment, du côté de Marx, ça ne sera pas ça du tout, puisque Marx est pour que les soldats prussiens viennent foutre une bonne raclée aux ouvriers français qui sont tout imbus des idées de Proudhon. 13 juillet, toujours 1870, Guillaume Ier à Ems refuse de recevoir l'ambassadeur français Benedetti qui demande une confirmation officielle sur l'annulation du mariage. Guillaume transmet sa réponse à Bismarck qui va s'empresser de publier le télégramme en le tronquant pour être compris comme une insulte par la France. C'est la fameuse dépêche d'Ems. Le 15 juillet, Gambetta, candidat élu de la Ligue de Belleville, donc antimilitariste, vote les crédits militaires demandés par Thiers. 245 voix, il y en a seulement 10 qui votent contre. 50 millions pour le ministère de la Guerre, 16 pour la Marine, la levée de la garde mobile. Favre, Grévy, Arago, Esquiros, Garnier-Pagès, Glébisouin, Ordinaire, Pelletan et Rochefort se sont abstenus. Voilà ce qu'écrit Charles de Lécluse dans son journal qui s'appelle « Le Réveil ». Daté du 16 juillet 1870. L'attitude de la presse démocratique a été ce qu'elle devait être au milieu des circonstances critiques dans lesquelles l'impéritie du gouvernement a jeté la France. Ennemi déclaré des guerres, parce qu'elle ne profite jamais au peuple, elle ne s'est pas laissée prendre à l'enthousiasme de mauvais aloi que les journaux monarchistes s'efforcent de répandre dans la population. Avec la victoire, c'est la ruine de la liberté. Avec la défaite, la ruine de l'indépendance. Vienne le jour ou ne relevant alors que d'elle-même, la France aurait à se défendre de ses attaques, et l'on verra si la démocratie n'est pas la première au combat. Jusque-là, son unique, son impérieux devoir est de conjurer des conflits préparés par les rois et dont l'issue ne peut être que défavorable à la liberté. Eh bien, on peut écouter donc la révolte. Donc, les paroles sont de Sébastien Faure et c'est toujours interprété donc par les quatre barbus. Pas très fréquentable hein, ces quatre barbus, mais bon, c'est un CD où pratiquement il y a 12 chansons qui sont très intéressantes donc pour le courant donc révolutionnaire et plus particulièrement libertaire.
Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les races. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et les rapaces.
Mais nous ne voulons plus fléchir sous le joug qui gourme à nos pères,
car nous voulons nous affranchir de ceux qui causent nos misères.
Église, parlement, capitalisme, état, magistrature, patron et gouvernement, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Ouvriers ou bien paysans, travailleurs de la terre ou de l'usine, nous sommes dès nos jeunes ans réduits au labeur qui nous mine.
D'un bout du monde à l'autre bout, c'est nous qui créons l'abondance.
C'est nous tous qui produisons tout, et nous vivons dans l'indigence.
Église, parlement, capitalisme, état, magistrature, patron et gouvernant, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
L'État nous écrase d'impôts, il faut payer, ses juges s'afflicaillent. Et si nous protestons trop haut, au nom de l'ordre, on nous mitraille.
Les maîtres ont changé sans foi, c'est le jeu de la politique.
Quels que soient ceux qui font les lois, c'est bien toujours la même clique.
Église, parlement, capitalisme, état, magistrature, patron et gouvernant, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Pour défendre les intérêts des flibustiers de la grande industrie, on nous ordonne d'être prêts à mourir pour notre patrie.
Nous ne possédons rien de rien, nous avons horreur de la guerre.
Voleurs, défendez votre bien, ce n'est pas à nous de le faire.
Église, parlement, capitalisme, état, magistrature, patron et gouvernement,
pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire. Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
C'était donc les paroles de Sébastien Faure, c'était la révolte. Eh bien, le 19 juillet 1870, nous sommes un mardi, la déclaration de guerre, datée du 17 juillet, est notifiée à la Prusse. Émile Ollivier déclare « Nous l'acceptons le cœur léger ». 28 juillet, Napoléon III fonde les trois armées en une seule, l'armée du Rhin, dont il prend la direction. C'est la désorganisation totale. Alors il décide de partir, donc vers le front, il part de la petite gare de Saint-Cloud avec son fils. De Metz, le major général télégraphie à Paris, les détachements qui rejoignent l'armée continuent à arriver sans cartouches et sans campement. 1er août, première bataille à Sarrebourg. Les soldats français campent en Allemagne et ce sera la seule victoire française. Le 4 août, l'armée de MacMahon est défaite à Wissembourg, 58 km de Strasbourg. Le 6 août, une fausse nouvelle de victoire permet à des spéculateurs parisiens avertis de faire fortune. La bourse est mise à sac. Et puis, l'armée française est écrasée. Le 14 août, n'ayant plus de résistance, la Prusse annexe de fait l'Alsace. Comme les députés républicains refusent de renverser le pouvoir, les blanquistes, avec Auguste Blanqui, bien sûr, tente de prendre les armes à la caserne des pompiers de la Villette. Blanqui, Brideau, Eudes, Granger vont être condamnés à mort par contumace. Blanqui sera arrêté près de Figeac le 17 mars 1871 sur ordre d'Adolphe Thiers. Le 16 août, Raisonville pour les Prussiens, Gravelotte pour les Français. Les deux partis revendiquent la victoire. Il restera tombé comme à Gravelotte. 20 000 Prussiens tués. Et voilà ce qu'écrit Guy de Maupassant. Si la guerre est une chose horrible, le patriotisme ne serait-il pas l'idée qui l'entretient? 18 août. Bazaine est encerclé à Metz. Napoléon III à Châlons nomme Trochu gouverneur de Paris. Tout ce que je pourrais faire pour éviter une révolution, je le ferai. J'adopte l'une des vieilles devises de la province de Bretagne où je suis né, avec l'aide de Dieu pour la patrie. Avec l'aide de Dieu pour la patrie. Et c'est ça, ce premier président de la Troisième République, Jules Trochu. Thiers refuse de faire partie du comité de défense. Et voilà ce qu'il dit. Si j'acceptais, je perdrais toute autorité morale. Il va quand même y rentrer le 27 août. Et voilà ce qu'il dit. Si je refusais de prendre ma part de la tâche commune, je serais coupable devant le pays. C'est vraiment à géométrie variable. Maréchal Vaillant, voilà ce qu'il dit. Monsieur Thiers est un dissolvant, rien de plus. Il nous fait perdre notre temps. Monsieur Thiers parle et parle. On se chamaille, on ne conclut pas. La politique domine. Chez Monsieur Thiers, tous ses bons instincts. 30 août, 2 septembre, toujours 1870, bataille de Sedan. 1er septembre, Bazaïne. Donc, c'est la charge des chasseurs d'Afrique, commandée par Gallifet. Donc, c'est Guillaume Ier qui regarde et qui dira « Oh, les braves gens, le général Marguerite est tué. » Napoléon III va capituler dans la nuit, au château de Bellevue. Et voilà ce qu'il dit. « Je sais le désastre, l'armée s'est sacrifiée, c'est à mon tour de m'immoler, je suis résolu à demander un armistice. » C'est le général Raille qui apporte la lettre écrite à 16h au roi de Prusse Guillaume Ier. Et voilà ce qu'a écrit Napoléon III. « Monsieur mon frère, n'ayant pu mourir au milieu de mes troupes, il ne me reste qu'à remettre mon épée entre les mains de votre majesté. Je suis de votre majesté le bon frère. » Et c'est signé Napoléon. Le 3 septembre, Cousin Motondeau, comte de Palikao, tente en vain à Paris de cacher la révolution, la reddition de Napoléon III. La foule crie « Déchéance ! La République !» Et les manifestants sont dispersés sans ménagement, sur ordre donc du gouvernement. Eh bien, on peut essayer le père Lapurge, toujours avec les quatre barbus.
« Je suis le vieux père la purge, pharmacien de l'humanité. Contre sa bile, je m'insurge avec ma fille égalité.
J'ai ce qu'il faut dans ma boutique, sans le tonnerre et les éclairs, pour bien purger toute la clique des affameurs de l'univers.
Son mal vient des capitalistes, plus ou moins gras à la ronger.
En avant les gars anarchistes, fils de Marat, faut la purger.
J'ai du pétrole et de l'essence pour badigeonner les châteaux.
Des torches pour la circonstance, à mettre en guise de flambeau.
J'ai du picrate, de potasse, du soufre et du chlore en tonneau pour assainir partout où passent les empoisonneurs de cerveau.
J'ai des pavés et de la poudre, de la dynamite à foison qui rivalise avec la foudre pour débarbouiller l'horizon.
J'ai poudre verte et mélinite, un peu fameux produit, mes enfants, pour nous débarrasser plus vite de ces mangeurs de pauvres gens.
J'ai pour les gaver de la table la bombe glacée à servir, du haut la balle au dirigeable, par les toits pour les rafraîchir.
Voleuses et traîtres bourgeoisies, prêtres et bandits couronnés, il faut que d'Europe en Asie, vous soyez tous assaisonnés.
J'ai ce qu'il faut dans ma boutique, sans le tonnerre et les éclairs, pour bien purger toute la clique des affameurs de l'univers.
Des affameurs de l'univers, voilà. Eh bien, c'était le père La Purge. 4 septembre 1870, c'est un dimanche. Cri des gardes nationaux le matin, sur la place de la Concorde. Vive la Commune ! La foule va envahir l'hémicycle, la Chambre des députés à 14h30. Thiers demande aux manifestants d'attendre. Et Régère, du côté des manifestants, répond « Le peuple n'attend pas. Vous n'êtes pas prêts ? Nous prononçons nous-mêmes la déchéance. » Déchéance de l'Empire. Granger, blanquiste, monte à la tribune que vient d'abandonner Schneider, c'est le président de l'Assemblée nationale, c'est le maître des forges, c'est le député, bien sûr, maire du Creusot. Et donc, Granger somme les 15 députés restants de proclamer la République. Gambetta est encore là, et voilà ce qu'il dit. Attendu que tout le temps nécessaire a été donné à la représentation nationale pour proclamer la déchéance, déclare la déchéance au nom du pouvoir régulier issu du suffrage universel. Jules Favre, qui est aussi là, supplie « Surtout pas de journée sanglante, surtout empêcher que cette proclamation ne déchaîne la guerre civile et la révolution sociale. » Mais la foule risque de prendre le pouvoir, il faut donc l'écarter. Les républicains opportunistes décident que la République ne peut être proclamée qu'à l'hôtel de ville et ça va être une course éperdue. Les premiers qui vont arriver auront le pouvoir. Les députés sont à cheval, la foule est à pied. Les révolutionnaires sont en exil, Eugène Varlin, Auguste Blanqui. Ils sont en prison, Gustave Flourens, Benoît Malon, Charles de Lécluse. Millière est inoffensif. Le drapeau rouge va flotter sur l'hôtel de ville. Et c'est Millière lui-même qui va offrir une chaise à Jules Favre. Pourquoi je parle de Millière ? Puisqu'il a été fusillé donc par les Versaillais sur les marches du Panthéon pendant la semaine sanglante. Pour empêcher toute nouvelle réunion officielle, Adolphe Thiers, avec l'assentiment de Jules Favre, fait mettre les scellés sur l'hémicycle. On est à l'hôtel de ville. Une première liste est établie. Rochefort et Jules Trochu n'apparaîtront que sur la deuxième mouture. Évidemment, Rochefort n'est pas encore là. Prudent, Adolphe Thiers est en retrait. Il va expliquer plus tard son abnégation. Il fallait tirer Paris des mains d'une populace que plus rien ne contenait. Opportuniste aussi, il va expliquer plus tard que s'il ne lui convenait ni de reconnaître, ni de combattre ceux qui vont lutter contre l'ennemi, eh bien, il était là quand même. Et sur le changement de régime, jamais je n'ai vu de révolution accomplie plus aisément et avec moins de frais. Et oui, du Second Empire, on passe à cette République d'acclamation, donc cette Troisième République. Reste Rochefort. Rochefort que les blanquistes viennent de délivrer de Sainte-Pélagie. Alors Rochefort va servir de paravent à ces républicains opportunistes, puisque pratiquement c'est le seul député de Paris, opposant officiel, puisqu'il est en prison. Donc il va servir au Floquet, au Jules Favre, Jules Simon, Jules et autres. Voilà ce qu'écrit Arthur Arnoux. Depuis 6 semaines, Le Parti républicain attendait, espérait un mouvement. Nous faisions tous nos efforts pour le provoquer. Mais la population, tenue en bride par les députés de la gauche qui se plaçaient comme un tampon entre le peuple et l'Empire, énervée par 20 années de despotisme et de corruption savante, semblait avoir perdu la foi dans ses propres forces et jusqu'au sentiment de sa toute-puissance. Gambetta va s'arroger le ministère de l'Intérieur et s'empresser de nommer aux préfectures importantes ses copains. Étienne Arago va s'autoproclamer maire de Paris, pas confondre avec Emmanuel Arago. Jules Trochu, que Napoléon III avait nommé gouverneur de Paris, accepte la présidence du gouvernement, donc à la condition que le nouveau gouvernement défende la famille, la propriété, la religion. Et puis on se met au balcon, acclamation de la République du balcon de l'hôtel de ville. Les ministres, Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, Le Flo, ministre de la guerre, Ernest Picard aux finances, Crémieux à la justice, Fourichon à la marine, Gambetta à l'intérieur, Jules Simon à l'instruction publique, Dorian aux travaux publics, Magnin au commerce, Kératry à la préfecture de police, Garnier Pagès, Les Bisouins, Jules Ferry, Pelletan sont là, disons, en réserve. Première séance de ces ministres à l'hôtel de ville, 22h30. Et là, ils vont constituer le gouvernement de la Défense nationale. Jules Trochu est président de ce gouvernement de la Défense nationale, donc de cette Troisième République. Et il considère comme une folie de vouloir soutenir un siège, donc contre les Prussiens qui continuent à avancer vers Paris. Voilà ce que l'on peut prendre dans le journal L'Illustration, daté du 17 septembre 1870. Il y a la publication donc des portraits des nouveaux ministres. L'Illustration qui est un hebdomadaire pour le moins conservateur. 12 comme les apôtres, mais 16 en réalité. Jules Favre Léonin, une tête puissante et fière, entourée d'une crinière de lion. Jules Ferry, 38 ans, un garçon qui se pousse. Ernest Picard, homme politique véritable, conscient du péril rouge. De la Bisouin, vieillard farfelu et qui n'eut qu'un mérite, le pittoresque de son chapeau vite célèbre à Paris. Gambetta, l'inconnu, se livre peu, une force. Pas de socialiste dans l'équipe, un anarchiste mondain, seulement très inoffensif, Rochefort, et pas un seul prolétaire. On reste entre gens de bonne compagnie et tout passe très bien. On peut prendre ce qu'écrit Vitu dans Le Figaro. Voilà ce qu'il écrit sur Trochu. Air de contentement répandu sur sa personne. Et là, on peut prendre ce que déclare Élisée Reclus sur Monsieur Suisse, dit Jules Simon. Avec lui, c'est la morale qui entre au pouvoir. Mais alors, quelle morale, puisque en fait, c'est la morale religieuse.
Bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Empare-toi maintenant de l'usine, du capital, ne sois plus serviteur.
reprends l'outil et reprends la machine. Tout est à tous, rien n'est à l'exploiteur.
Oui, la patrie est une baliverne, un sentiment doublé de lâcheté ne devient pas de la viande à caserne. Je ne conscris, il vaut mieux déserter. De vos compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. De vos vieux révolutionnaires, et l'anarchie enfin va triompher.
Tous les élus foulés à la potence, lorsque l'on souffre, on doit pouvoir châtier. Leurs électeurs, foyeux-les d'importance, envers aucun, il ne faut de pitié.
Que la nitro, comme la dynamite, soit là pendant qu'on discute raison. S'il est besoin, renversons la marmite, mais de nos mots, hâtons la guérison. De vos compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter.
Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté.
C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosophique. De vos vieux révolutionnaires, et l'anarchie enfin va triompher. De vos vieux révolutionnaires, et l'anarchie enfin va triompher.
Eh oui, comme vous l'avez bien compris, c'est le triomphe de l'anarchie. Et les paroles, donc, sont de Charles Davray. Voilà, triomphe de l'anarchie, Charles Davray. Eh bien, on peut continuer la lecture des journaux, hein, dans le journal des débats. Avec un gouvernement composé de 10 avocats, on a pour correctif la chance de le voir présidé par un militaire. Et c'est justement ce militaire qui discourt le plus. La division du travail entre les membres du gouvernement ne présage rien de bon. Les orléanistes se sont saisis des positions fortes de l'armée et de la police, alors qu'aux républicains déclarés sont échus les ministères où l'on parle. Alors évidemment, celui qui parle le plus là-bas, c'est Trochu, hein. Et oui, c'est le premier président de la Troisième République. Et il est très gênant à l'heure actuelle, puisque pratiquement tout le monde fait en sorte de l'oublier. On peut prendre Étienne Arago, donc, qui s'est déclaré maire de Paris, va désigner les 20 maires d'arrondissement. C'est le frère du savant, François. Auteur dramatique, directeur du Vaudeville de 1830 à 1840, il va s'exiler de 1849 à 1859, donc c'est un vague opposant à l'Empire. Il va être élu donc député de 1871, en février 1871, à 1876. Il va quand même décéder en 1892, cet Étienne Arago. Les ouvriers se méfient. Et vont créer un comité de surveillance qui va essaimer en comité républicain d'arrondissement, puis en comité de vigilance. Et c'est ces comités de vigilance qui vont pouvoir, donc, qui vont avoir la haute main sur les gardes nationaux, sur les bataillons de la garde nationale. Le soir, rue de la Corderie, Charles Bellay rapporte sa question, donc, qu'il a posée à cette équipe-là de tout nouveau ministre et le peuple. Qui donc le représentera dans votre gouvernement? Vous l'excluez au moment où vous en avez le plus besoin. Et puis il y a aussi une adresse au peuple allemand qui est rédigée, donc c'est par l'Association internationale des travailleurs. Tu ne fais la guerre qu'à l'empereur. Repasse le Rhin, tendons-nous la main, proclamons la liberté, l'égalité, la fraternité des peuples. Par notre alliance, fondons les États-Unis d'Europe. Vive la République universelle. 15 signatures, Tolin, Perrachon, Landec, Brionne, Camelina, Bellay. Et alors, évidemment, cette adresse au peuple allemand va susciter la colère de Karl Marx. Et c'est une des premières fois qu'on voit apparaître officiellement la République universelle, et non pas des républiques à numéros. L'enquête parlementaire sur le 4 septembre 1870 va évoquer une motion saisie chez un membre de l'Association internationale des travailleurs. Et voilà ce qui est dit. le gouvernement provisoire ne sera pas attaqué, attendu le fait de guerre et attendu l'insuffisance de préparation des forces populaires encore mal organisées. Dans leur mémoire, les quatre Jules, Jules Simon, Jules Favre, Jules Ferry, Jules Trochu, répondent « Le gouvernement provisoire a empêché la démagogie de prendre la défense de Paris et de produire dans la France entière un immense bouleversement social. » À 22h, Thiers clôt la dernière séance des députés à la Chambre des députés. « De grâce, n'entrons pas dans cette voie en présence de l'ennemi qui sera bientôt sous Paris. Nous n'avons qu'une chose à faire, nous retirer dans la dignité. » Et le compte-rendu de cette dernière séance se termine. L'émotion profonde de M. Thiers se communique à toute l'Assemblée. La séance est levée. Et Thiers va faire mettre les scellés sur les portes donc de l'hémicycle pour empêcher toute nouvelle réunion des députés. On peut prendre ce qu'écrit Ducrot. La diplomatie et presque toute la défense ont tourné autour d'une seule chose, la crainte d'une émeute. Freycinet va demander des instructions à Gambetta. Depuis quelques jours, l'armée et moi-même ignorons si le gouvernement veut la paix ou la guerre. Des bruits d'armistice tout à coup répandus jettent le trouble dans l'âme de nos généraux. Généraux bonapartistes, bien sûr. Déjà, vous le savez, la nouvelle de la capitulation de Metz, répandue dans l'armée de la Loire, à la suite du passage d'un de nos hommes d'État, a arrêté un mouvement qui devait infailliblement nous conduire à Orléans. Il faut que le gouvernement dise résolument si nous devons faire la paix ou la guerre. Alors, cette rumeur l'a répandue dans l'armée de la Loire à la suite du passage d'un de nos hommes d'État. Eh bien, c'est Adolphe Thiers. Il n'est pas à Paris, lui. Il n'est pas dans ce gouvernement de la défense nationale à Perorée, non. Non, non, il fait la tournée des popotes. Il balance toutes ces fausses informations, toutes ces manipulations. Il fait aussi la tournée des cours d'Europe pour savoir comment, sur qui il peut compter quand il va reprendre le pouvoir. Et ça, il va le reprendre, eh bien, en mars 1871. Lyon proclame la République. Le comité des intérêts publics nomme provisoirement les maires pour les 6 arrondissements lyonnais. Marseille proclame la République. Le lendemain, un préfet est nommé, avec une commission départementale pour l'assister. Une garde civique, corps de police politique est formé. À Grenoble, le général Bonapartiste doit démissionner sous la pression populaire. Et voilà ce qu'écrivra Ludovic à Lévis en 1871. « Je commence à m'embrouiller, moi, dans ces insurrections qui sont un devoir et dans ces insurrections qui sont un crime. Je ne vois pas bien la différence. » Victorien Sardou, 1880. « L'émeute, c'est quand le populaire est battu, tous des vauriens. La révolution, c'est quand il est le plus fort, tous des héros. » Voilà ce qu'écrit Flaubert. Les républicains ne sont pas tous des voleurs, mais tous les voleurs sont républicains. La République est aussi proclamée à Cahors, à Bordeaux, donc Carcassonne, et puis pratiquement dans toutes les grandes métropoles. Trochu écrit dans La politique et le siège de Paris, si 20 Bellevillois armés de fusils s'étaient présentés le soir du 4 septembre à l'hôtel de ville, nous étions sans aucune défense. Et encore dans le journal L'Illustration, daté du 10 septembre, voilà ce que l'on peut lire. Les membres qui composent le gouvernement ont fait tous leurs efforts pour résister à la proclamation de la République. Et oui, c'est cette République donc du 4 septembre que certains vont implorer donc le 4 septembre 2010, hein, autour de la statue de la République de Maurice. Voilà. Kératri est annoncé à la préfecture de police et rue de Jérusalem par Antonin Dubost, rédacteur au journal La Marseillaise. Donc rien n'est simple, La Marseillaise c'est le journal de Rochefort, bien sûr. Steinacker, qui est bien sûr plus que gambettiste, député, élu député de la Haute-Marne, est nommé directeur des postes par Gambetta, en remplacement du bonapartiste de Vougy. Nadar s'installe révolutionnairement, place Saint-Pierre. Il se trouve sur une hauteur et une conduite de gaz passe rue Rochechouart. Une dérivation de 250 mètres est construite. Pourquoi je parle de Félix Tournachon, dit Nadar? Eh bien, c'est lui qui va organiser la première poste aérienne avec des ballons, donc des ballons libres, hein, mais gonflés au gaz, puisque ça permettra pendant le siège à Paris de communiquer avec la province. Le retour donc de province vers Paris se fera par pigeon voyageur et puis par d'autres procédés, mais vraiment tout à fait aléatoire. Donc les pigeons voyageurs étant aussi emmenés donc par les ballons. Donc Chaque république va survivre avec un thème mobilisateur. La troisième république, ce serait autour de la laïcité. La quatrième, c'est la résistance. Et la cinquième république, c'est l'Algérie. Et alors, autour de la Troisième République, autour de ce concept de séparation des pouvoirs, hein, loi de 1905, il faut savoir qu'en 1871, il était demandé l'abolition des pouvoirs, et non pas la reconnaissance d'un pouvoir et civil et religieux, qui, disons, cèdent mutuellement. Et alors, 1889, c'est le centenaire donc de la prise dite de la Bastille, hein, et on a vu donc cette colonne de juillet, la manipulation encore qu'il y a eu autour, hein, par Adolphe Thiers, et notamment aussi Louis-Philippe. Et donc, c'est symboliquement, c'est la rupture avec le divin, 1789, le pouvoir n'est plus d'essence divine, mais devient d'essence humaine, et on voit tous les aléas que ça a amené. C'est pas si facile que cela. Et donc, il y a eu, pour cette exposition universelle du centenaire de la prise de la Bastille, donc de l'abolition officielle de la monarchie, mais avec des soubresauts, bien sûr, il y a eu un concours de statues. C'est donc Maurice qui va remporter donc le concours avec sa statue de la République. Cette statue va être placée donc sur ce qui s'appelait la place du Château d'Eau, encore en 1871, elle a été débaptisée donc au moment donc de l'instauration de cette statue donc de la République. Et alors, cette statue est à la frontière du Paris des affaires, donc qui va vers l'ouest, hein, qui commence par les jeux avec les grands boulevards, hein, les théâtres, hein, voilà, les cafés, et puis de l'autre côté, donc l'est, le Paris des producteurs. Donc la frontière est bien marquée là, et derrière cette statue de la République, on peut toujours voir une œuvre d'Haussmann, hein, donc la caserne Vérine, qui sous Napoléon III s'appelait la caserne du prince Eugène, donc le fils de Napoléon III. Hein. Voilà. Donc c'est une caserne où sont encasernés des gendarmes, donc l'armée. Hein. Voilà. Je vais arrêter donc pour aujourd'hui cette évocation, ou tout au moins les racines de cette Troisième République, hein, qui va être, disons, implorée, ou je sais pas comment, avec quelques manifestations, le 4 septembre 2010. Hein, mais cette Troisième République est particulièrement puante, hein, pour moi, quand on voit d'où elle est issue et, disons, tout ce qu'elle a fait, puisqu'elle a quand même pataugé dans le sang donc des fédérés, elle a pataugé dans le sang de ceux qui résistaient à la colonisation. Elle s'est terminée du côté de Vichy, donc aussi de la façon quasiment dont elle était née, hein, avec une guerre, avec aussi un homme providentiel entre guillemets, hein, Adolphe Thiers providentiel le 4 septembre 1870, et puis un certain maréchal Pétain, peut-être aussi la divine surprise, hein, en 1940, hein, du côté de Vichy. Voilà. Eh bien, avec les quatre barbus. Le dernier qui me restait, finalement, je sais pas trop. On peut mettre la ravachole, hein, ça devrait partir pour la ravachole.
Dans la grande ville de Paris,
dans la grande ville de Paris,
il y a des bourgeois bien nourris,
il y a des bourgeois bien nourris.
Il y a les miséreux qui ont le ventre creux, ceux-là ont les dents longues,
vive le son, vive le son.
Ceux-là ont les dents longues, vive le son de l'explosion.
Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son de l'explosion.
Il y a les magistrats vendus,
il y a les magistrats vendus.
Il y a les financiers ventrus,
il y a les financiers ventrus.
Il y a les argousins, mais pour tous ces coquins, il y a de la dynamite,
vive le son, vive le son.
Il
y a de la dynamite, vive le son, l'explosion.
Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son, l'explosion.
Il y a les sénateurs gâteux.
Il y a les sénateurs gâteux.
Il y a les députés véreux.
Il y a les députés véreux.
Il y a les généraux, assassins et bourreaux. Boucher en uniforme,
vive le son, vive le son.
Boucher en uniforme, vive le son de l'explosion.
Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son, l'explosion.
En nom de Dieu, faut en finir.
En nom de Dieu, faut en finir.
Assez longtemps, j'aimerais souffrir.
Assez longtemps, j'aimerais souffrir.
Pas de guerre à moitié, plus de lâche pitié. Mort à la bourgeoisie,
vive le son, vive le son.
Mort à la bourgeoisie, vive le son d'explosion.
Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son d'explosion.
Eh bien voilà, c'est un auteur inconnu, et c'est bien sûr sur l'air de la Carmagnole. Eh bien, c'était l'évocation des partageux de la Commune. Et puis là, un petit rappel autour de cette République du 4 septembre, et surtout d'où elle est issue, et cette continuité donc du pouvoir. Hein. On a vu Louis-Napoléon, hein, Adolphe Thiers, Trochu, et puis tous ceux qui continuent derrière. Hein. Ce n'est qu'une longue passation de pouvoir. Et alors, on parle de révolution. Là, il avait le mot réforme au 19e siècle, hein, puisque la révolution, ce n'est pas un changement de pouvoir. Hein. La révolution, c'est l'abolition du pouvoir. C'est Pierre-Joseph Proudhon qui, je crois, disait qu'une révolution, mais croyez-vous que ça se fait comme ça en une semaine? Non, une révolution, ça dure des siècles. Voilà, donc là, toute la révolution, tout l'acte révolutionnaire, eh bien, c'est de conduire à l'abolition donc du pouvoir ou des pouvoirs, puisque l'un ne peut pas marcher sans l'autre. Hein. Eh bien, je vous rappelle que oui, c'était sur Radio Libertaire 89.4, la voix sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer la carte d'auditeur de Radio Libertaire, cela bien sûr à Librairie Publico, qui se trouve 145 rue Amelot. Voilà, qui est ouverte en semaine l'après-midi et le samedi toute la journée. Voilà, le lundi après-midi aussi, elle est ouverte, bien sûr. Si vous nous écoutez par Internet, bien sûr, vous pouvez aussi vous procurer cette fameuse carte d'auditeur, un chèque à l'ordre de DMC. L'enveloppe, eh bien, c'est Radio Libertaire, 145 rue Amelot, 75011, Paris, France. Pourquoi je dis France? Eh bien, c'est bon, par nationalisme, non? C'est parce que, oui, c'est Internet, donc c'est au niveau planétaire, bien sûr, et puis c'est aussi bien les émissions qui sont enregistrées donc pour la semaine, puisque c'est l'émission du jour qui efface celle de la semaine d'avant, donc il n'est plus nécessaire d'écouter en direct. On peut écouter, disons, quand on veut, et puis aussi enregistrer, pourquoi pas, quand on veut, donc les émissions. Eh bien, je termine avant de mettre une bande son. Enfin, on va terminer donc avec La Semaine Sanglante, et c'est donc interprété par David Vincent et ses Mutants. Ça devrait y aller.
Yeah. Les